Bazin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quand des lycéens réinventent le monde, quel regard portent-ils sur les grands problèmes actuels? Changement climatique, inégalité. Comment les sensibiliser aussi au développement durable, à la solidarité, au vivre ensemble, eux qui seront demain les acteurs aux commandes? Alors plusieurs adolescents en France et ailleurs ont participé au concours de podcast Réinventer le monde pour raconter leur vision d'un monde plus juste, plus durable. Vous allez entendre des extraits, des podcasts qu'ils ont imaginés, écrits, mis en scène, et les adultes aussi qui les ont accompagnés. Bonjour Stéphanie Beneil.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission sensibilisation et campagne d'intérêt général à l'Agence française de développement. Tidiane Tiang aussi est avec nous. Bonjour Tidiane.
Bonjour.
Vous êtes producteur, réalisateur de documentaires et fictions sonores. Vous faites partie du collectif Making Waves. Vous avez participé à ce projet Réinventer le monde. Et les auditeurs vous connaissent surtout parce que vous avez élaboré le feuilleton radiophonique Dianke, qui a été récompensé par un prix et qui est toujours en libre écoute sur le site de RFI et sur toutes les plateformes de téléchargement. Nous serons aussi en ligne avec des enseignants qui ont travaillé avec les adolescents pour réinventer leur monde. Catherine Doram, qui est médiatrice à l'atelier Canopée de Lille. Et puis Karine Boulet, professeure de maths au lycée agricole Lucie Aubrac à Davaillé, dans le département de Saône-et-Loire. Voilà. Et bien sûr, vous entendrez des extraits de ces podcasts réalisés par des adolescents, des débutants donc, sur le podcast.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve, tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour qu'on n'en forme qu'un seul.
Stéphanie Beneil, les auditeurs ont l'habitude de voir l'AFD opérer dans les pays qui ont besoin d'aide au développement. Quel était l'enjeu de ce concours de podcast en France, dans un pays qui est contributeur de l'aide financière aux pays pauvres?
Alors déjà, l'AFD a aussi une mission de sensibilisation ici en France, avec une cible prioritaire que sont les 15-25 ans. Et ce programme et ce concours de podcast Réinventer le monde fait partie de ce qui est proposé dans le cadre de cette mission de sensibilisation. Et donc à travers ce concours de podcast et ce programme, il est question de faire découvrir les grands enjeux mondiaux, ceux que vous avez rappelés, hein, ceux du changement climatique, de la perte de la biodiversité, mais aussi de l'égalité femmes-hommes, à travers des podcasts et des fictions sonores, plus précisément.
Ces adolescents, ce sont eux qui demain vont financer l'aide au développement par leur fiscalité, finalement.
Exactement.
En France,
hein,
et en Europe.
Et donc c'est les ouvrir aussi au monde, à des situations qui sont peut-être pour eux méconnues, qui vont découvrir à travers des récits d'habitants du monde. Et ils vont pouvoir aussi, à leur tour, se projeter peut-être dans la vie de ces habitants et raconter des histoires et créer leur propre podcast.
Oui, la vie de ces habitants, ils les connaissent finalement via la télévision, via les vidéos sur Internet. Quel était le cahier des charges pour les adolescents?
Alors l'idée, c'était, comme le nom du programme, c'était, on leur proposait de raconter le monde dont ils sont témoins et celui à réinventer à l'horizon 2030. En leur disant, il existe une feuille de route qui est celle des objectifs de développement durable. Des Nations Unies, exactement. En les invitant à prendre connaissance de cette feuille de route, à choisir les objectifs pour lesquels ils ont le plus d'appétence, ceux qui les touchent le plus, les grandes causes finalement dont ils ont envie de parler. Donc ils ont été nombreux à parler de la protection des océans, du changement climatique. Et l'égalité femmes-hommes a été aussi un sujet qui a été beaucoup traité par les lycéens et lycéennes aussi. Donc le cahier des charges, c'est ça, c'est s'emparer de ces objectifs de développement durable pour raconter des histoires sur un monde qui serait réinventé à l'horizon 2030 et un monde qui soit plus juste et durable.
Oui, on est en plein forum Génération Égalité. Pourquoi une création sonore?
Alors oui, on a fait un peu ce pari de se dire, on va proposer des podcasts, de la création de podcasts, là où on sait que les adolescents consomment énormément de vidéos, donc des formats très courts. Là, le podcast, ça demande quand même une concentration, une attention. On est sur des formats souvent qui dépassent les 10 minutes. Et c'est ce qu'on leur a proposé aussi, hein, c'est de faire des podcasts d'une durée moyenne de 10 minutes. Et on s'est dit que ce format-là permettait aussi de faire travailler leur imagination, de créer aussi cette immersion. Et donc ça nous a paru, et on pense que c'est un vrai support intéressant d'apprentissage. à la fois pour comprendre des choses et puis pour travailler des compétences, que ce soit l'oral. On voit que voilà, les élèves sont de plus en plus amenés à travailler l'oral à travers l'oral du bac, par exemple. Mmh. Et donc là, ça peut être un exercice qui le permet, ce travail autour de la création de podcasts. Le travail en groupe, parce que souvent, ils font ces histoires de manière collective. Hein, ils écrivent de manière collaborative ces histoires. Donc, ils ont besoin de s'écouter, de s'entendre aussi sur la façon dont ils vont raconter les choses. Donc, voilà, de nombreuses compétences travaillées à travers ce projet.
Tidiane Tiang, vous, comment vous travaillez avec les jeunes? Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas cette habitude du documentaire sonore, de la création sonore.
Avec les jeunes, d'habitude, il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience. Ça, c'est connu de tout le monde. Après, ce qui est intéressant quand on travaille avec eux, c'est qu'ils ont un regard que nous, souvent, on n'a pas sur les choses, en fait. Beaucoup de choses peuvent nous paraître évidentes, peuvent nous paraître, je dirais, normales, alors qu'eux, ils ont une vision assez de leur âge, en fait. Et ça, c'est très intéressant quand on arrive, à partir de leur vision du monde, de pouvoir créer, réinventer des choses, penser autrement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant quand on travaille avec eux.
Alors, vous qui êtes la génération juste un peu au-dessus, Tidiane Tiang, qu'est-ce qui vous a surpris dans leur façon de réinventer le monde?
La structure des récits, en fait. Parce que quand on travaille dans la production, que ce soit pour l'audio ou la vidéo, on se rend compte que des fois, ce qu'on cherche le plus, c'est de pouvoir avoir de nouvelles idées pour raconter une histoire. Et j'ai trouvé dans ces productions des idées, des structures, la manière dont ils structurent les histoires, ou peut-être c'est des jeunes qui n'ont jamais fait d'école de cinéma ou de réalisation, mais qui arrivent à se projeter, à avoir des idées qui font cinéma, qui font histoire, et que ça me parle
à quoi
beaucoup.
Vous pensez comme idée que vous n'auriez peut-être pas eu, vous qui êtes trop âgé déjà?
Oui, ben quand je vois par exemple quand on prend le podcast des SDF, l'histoire ça commence par quelqu'un qui commence à raconter une histoire à un jeune. Et à la fin, on se rend compte en fait que c'est le SDF en fait qui raconte son histoire. Et au-delà de cette histoire, on voit comment après son parcours en fait évolue au fur et à mesure qu'on écoute l'histoire. Voilà, et ça, c'est une forme de narration, moi, qui m'a interrogé, je me suis dit, ben, waouh, ça quand même, c'est pas mal comme idée pour structurer une narration.
Ouais. Voilà. Quel est le travail du collectif Making Waves, justement, par rapport à ce travail avec les jeunes?
L'idée de Making Waves, à la base, c'est vraiment d'arriver à donner la parole, surtout à partager des idées, parce qu'il y a aussi, la parole, elle est un peu monopolisée dans certains secteurs, dans certains...
Dans les médias, dites-vous carrément,
médias.
Ouais, vous avez raison.
Du coup, il y a une partie de la population qui n'ont pas droit à la parole et qui ont des choses à dire. Et je pense que l'idée aussi de réinventer le monde, c'est aussi d'arriver au-delà des grandes villes où on a toujours... comment les gens pensent le développement, comment les gens pensent l'environnement et autres, d'arriver aussi à avoir l'aperçu des gens qui ne sont pas dans les grandes villes, qui sont en campagne. Et l'idée de Making Wave, c'est d'arriver à ce que ces personnes qui sont hors des champs de parole puissent accéder à la parole.
Stéphanie Benaille, oui, justement, ces lycéens, ils ne sont pas forcément dans les grandes villes, hein,
non,
qui ont participé au concours de podcast.
Non, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, il y a des collégiens aussi, hein, collégiens et lycéens. Mmh. Alors, on est sur des établissements plutôt soit dans des quartiers dits d'éducation prioritaire, donc plutôt dans des villes urbanisées, densifiées, ou alors dans des territoires très ruraux. On a beaucoup d'établissements professionnels qui participent, des établissements agricoles, et ça aussi c'est intéressant. Et puis il y a des productions aussi qui ont été faites par des jeunes lycéens allophones, donc qui parlent pas français, enfin qui parlent pas très bien français en tout cas, et pour qui ce programme c'est une façon aussi de s'exercer à l'oral, de s'exercer à pratiquer le français.
Le jury, alors, pour récompenser les podcasts, qui y a dans le jury?
Alors, on est très contents parce que cette année, on a un très beau jury.
Donc c'est la deuxième édition.
C'est la deuxième édition, exactement. Donc, parmi ce jury, on a essayé d'avoir des personnes qui représentent un peu tous les aspects de ce programme. Donc, on a des personnes de la radio, hein, on a Blandine Masson et Carole Lefrançois. On a également Adja Idrissaba, qui est militante des droits des filles, et de la qui parle beaucoup de la scolarisation des filles, notamment.
Et qu'on entend chez Priorité Santé, sur RFI, régulièrement.
Voilà, on a appris ça.
Et Marguerite Aboué, auteure de bande dessinée.
Et Marguerite Aboué, donc j'allais venir,
notre... Aya de Yopougon.
Oui, notre présidente du jury, qui a cette expérience de raconter des histoires, de montrer finalement aussi ce qu'il y a de commun entre cette jeunesse ici et la jeunesse là-bas. Mmh. Et c'est aussi ce qu'on cherche à faire à travers ce projet. Et puis, on a l'Éducation nationale, qui est représentée à travers le CLEMI, qui est l'organisme qui développe l'éducation aux médias et à l'information à destination des scolaires. Donc, un jury complet, diversifié, qui a écouté ces productions et qui a rendu des avis très, très bienveillants et qui... a beaucoup félicité les élèves pour la qualité de leur production.
Eh bien, nous aussi, on va les écouter, les productions des élèves. On va écouter un extrait d'une histoire imaginée par des lycéens de Saône-et-Loire, dans le centre-est de la France, pour remonter jusqu'aux usines de textile du Bangladesh. Tout commence par une étiquette qui gratte et qui parle.
Bonjour, l'étiquette qui gratte, c'est moi. Et oui, je gratte, je dérange.
Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille ? Qui parle ?
Bah, c'est moi l'étiquette, là, je suis juste là, sous vos yeux. Je viens de Dhaka, capitale du Bangladesh, où 80% de vos vêtements sont fabriqués dans des usines où les conditions de travail sont inhumaines. La cadence des machines ne s'arrête jamais. Adultes, enfants, travaillent sans répit pour un salaire de misère. J'ai promis à Malia, la petite créatrice, de l'aider du mieux que je pouvais. S'il vous plaît, aidez Malia.
Non mais c'est fou ça. Qu'est-ce qu'on peut faire nous ?
Faut d'abord vérifier toutes ces infos. Hein.
Le travail dans les ateliers de confection au Bangladesh est horrible.
Et pour en rajouter, moi j'ai trouvé sur le site du Monde qu'il faut 2700 litres d'eau pour faire un t-shirt et 11 000 litres d'eau pour faire un jean. Vous vous rendez compte du gaspillage ?
Hé hey Malia, nous venons de France, ton étiquette nous a parlé et nous sommes venus voir dans quelles conditions tu travailles.
Ah, c'est vrai, vous avez parlé avec mon étiquette ? Oh, je n'espérais plus, je suis si fatiguée. D'ailleurs, je n'ai que 30 minutes de pause déjeuner. Il faut vite que je vous explique. Venez, rentrons dans l'usine, vous allez voir.
Waouh, quelle chaleur ici !
Voilà, nous sommes environ 300 à travailler de 8 à 18 heures, 6 jours sur 7, avec deux pauses de 30 minutes par jour. La plupart des ouvriers sont des femmes et les moins de 14 ans, comme moi. On représente environ un tiers des ouvriers. Les plus jeunes ne travaillent que 5 jours par semaine. Bon, je dois y retourner. Il faut que je vous laisse. Je suis contente de vous avoir connue. C'est à vous d'agir maintenant pour éviter que nous travaillions dans ces conditions. Je compte sur vous.
Merci Malia. Oui, merci de nous avoir ouvert les yeux. On imagine bien que tout ne changera pas si vite pour toi, mais maintenant...
Fini la fast fashion. On consommera moins et mieux.
Oh, comme je suis une belle étiquette. Tu as encore bien travaillé, Malia. Je promets de t'aider encore. À force, on va y arriver. Tout le monde doit savoir.
Tout le monde doit savoir. Voilà, ça c'est le podcast L'étiquette qui gratte... en compétition pour ce concours de podcast. Nous sommes en ligne avec Karine Boulet, qui est professeure de mathématiques au lycée agricole Lucie Aubrac à Davaillé, qui a accompagné les lycéens. Bonjour Karine Boulet.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans le département de Saône-et-Loire, donc je le disais, vous animez aussi depuis 3 ans le Club Solidarité, qui a permis la réalisation du podcast. L'idée de l'étiquette d'un vêtement, de son périple tout autour du monde pour arriver jusqu'au consommateur, ce sont les élèves qui étaient déjà conscients des dégâts sociaux, environnementaux, de la protection textile pour les vêtements à très bas prix, qui ont eu cette idée.
Alors, ils l'ont découvert au fur et à mesure. Hein. C'est en découvrant leur étiquette un jour où on s'est aperçu qu'il y avait une provenance identique. Ils ont été très, très curieux et ils ont voulu en savoir plus. Donc, voilà le départ un petit peu de cette année sur ce sujet.
Comment vous les sentez, ces lycéens, par rapport à des problématiques qui, finalement, les touchent dans leur vie quotidienne, mais ils n'en sont pas forcément conscients au départ ?
Alors, au départ, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'ils sont un peu défaitistes, hein, mais au fur et à mesure, par l'information qu'on a pu leur apporter par le biais d'associations, ils ont su réagir et je crois qu'ils sont quand même pleins d'espoir au final pour essayer de faire changer un petit peu les choses à leur niveau, parce que ce n'est pas toujours facile. Mais ils ont des idées, ils ont des bonnes idées et ils pensent que ça va aboutir et j'y crois aussi.
Et ce type de création sonore de podcast, ça les responsabilise, ça les culpabilise ? Qu'est-ce que vous diriez ?
Alors, moi, je suis partie du principe qu'il ne fallait absolument pas les culpabiliser parce que dans l'achat de vêtements, ben, les jeunes, ils sont en première ligne, hein, c'est vrai. Mais cette idée innovatrice de réaliser ce podcast, c'était un moyen pour eux ben, de faire passer les messages et sans culpabiliser. Ça, je ne voulais pas. Mmh.
11 000 litres d'eau pour fabriquer un jean, ça vous a donné l'occasion de créer des problèmes de maths en même temps, vous qui êtes professeur de maths?
Oui, c'est vrai que des proportions, ne serait-ce que même pour découvrir à la marge de l'enseigne qui a fait la commande, ou etc., c'est vrai que ça a été l'occasion aussi de profiter de ces chiffres.
Ouais. C'est vrai que les chiffres sont quand même assez vertigineux hein, pour ces vêtements à bas prix. Qu'est-ce qui ressort de cette expérience, à votre avis, Karine Boulet, avec les élèves?
Alors, les élèves ont mené des actions hein, cette année pour de sensibilisation. Et moi, ce qui me surprend, c'est que d'eux-mêmes, ils souhaitent renouveler ces actions. Et ce que je leur ai dit, ce qu'il ressort, hein, c'est qu'ils feront des efforts dans leur achat, au moins d'informations, de savoir où ils achètent, quelle enseigne, d'où proviennent ces vêtements. Ça, c'était primordial.
Mmh. Est-ce que vous trouvez que l'école, en général, implique suffisamment les élèves dans des problématiques qui les concernent directement, des problématiques environnementales, sociales ?
Alors, derrière un bureau, des fois, c'est un petit peu loin de la réalité. Mais quand on a des intervenants ou quand on arrive, quand on a la possibilité de les faire sortir, d'aller dans des friperies, là, ils voient concrètement et c'est là qu'ils s'aperçoivent qu'il faut faire quelque chose, quoi, hein, qu'il faut changer ce monde.
Merci beaucoup, Karine Boulet. Tidiane Tiang, vous voulez ajouter quelque chose ?
Ben, je trouve que la manière dont elle a résumé cette expérience, c'est ça qu'on trouve tout le temps quand on fait ce genre de production avec des élèves, avec des jeunes, c'est qu'on a l'envie qui est là et que cette envie ne demande qu'à être stimulée et qu'on les pense souvent pas concernés par ces questions ou par ces thématiques, alors que oui, ils le sont vraiment. Et quand ils s'y mettent, ils produisent des choses trop bien.
Merci à vous en tout cas, Karine Boulet. Très bonne journée.
Merci.
Professeure de mathématiques au lycée agricole Lucie Aubrac à Davayé, dans le département de Saône-et-Loire, vous le disiez, Stéphanie Beneil, hein, des lycéens, des collégiens qui ont répondu à cet appel d'offres de concours de podcast Réinventer le monde, qu'ils soient dans des quartiers prioritaires, dans des zones rurales, en tout cas, des jeunes qui en général n'ont pas la parole sur des grandes problématiques comme ça.
Oui, et des jeunes pour qui, effectivement, ce type de projet est finalement stimulant, dans lesquels ils vont pouvoir aussi montrer voilà, ce dont ils sont capables. Hein. Par exemple, certains vont se révéler de très bons orateurs ou des narrateurs hors pair. Donc ça, c'est vrai que c'est ça qui est vraiment intéressant aussi dans ce projet.
Et se révéler à eux-mêmes aussi.
Oui,
hein.
Tout à fait.
Mmh. Tidiane Tiang, les adolescents du continent africain ont beaucoup moins accès à des vêtements neufs en grande quantité. On va dire que la fast fashion, c'est pas l'Afrique hein, qui est la cause de ces vêtements très polluants. Mais ils font plutôt partie du continent dont la matière première, le coton, est exportée pour être filée en Asie. Est-ce qu'il y a du coup sur le continent africain une jeunesse consciente de cet enjeu pour l'Afrique ?
Il y en a pas mal. Après, je pense que c'est surtout l'accès à l'information qui est un peu difficile parce que les jeunes sur le continent, quand ils ont envie d'acheter des vêtements, c'est surtout tout ce qui est friperie, oui. C'est vers là qu'ils vont se tourner. Mais quand on les sensibilise par rapport à ces thématiques, quand on leur parle de ce qu'il y a derrière la fabrication d'un, je pense qu'ils le savent pas. Ils savent pas qu'il faut 11 000 litres d'eau pour faire un jean.
Ouais, mais alors, c'est quand même une ironie du sort que c'est la jeunesse africaine qui est évidemment qui a une attitude beaucoup plus durable et responsable en achetant par nécessité économique des fripes. Plutôt que les jeunes Européens qui sont bien mieux informés et qui continuent de consommer.
Oui, ça, c'est une réalité. Après, ce qu'il faut arriver aussi à faire, c'est que ces jeunes du continent aussi soient informés par rapport à ça. Parce qu'il y en a qui ont les moyens peut-être de s'acheter des vêtements neufs, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la fabrication, qu'est-ce qu'il y a derrière, en parlant des cotons, On a l'exemple du Burkina où il y a beaucoup de cultures d'OGM qui sont développées sur place. Et ça, c'est une culture qui n'est pas bien pour les terres à long terme, en fait. Ça a des impacts énormes.
Même si le coton en Afrique est quand même une culture plus proche du développement durable, parce que c'est une culture pluviale, qui n'a pas d'irrigation, qui ne gaspille pas de l'eau.
Ça l'était. Mais de plus en plus, quand on voit, par exemple, beaucoup d'industries mises pour qu'on change les méthodes de culture, et ça implique aussi des situations assez catastrophiques, en fait.
Vous restez avec nous, Stéphanie Beneil, Tidiane Tiang. On va découvrir d'autres créations d'élèves en lien avec les objectifs du développement durable. Ça sera juste après Conti Bilang. Cette milliard de voisins, en cette fin de semaine, on laisse la parole à des histoires imaginées par des adolescents en France et ailleurs dans le cadre d'un concours de podcast Réinventer le monde pour raconter leur vision d'un monde plus juste, plus durable en relation avec les objectifs du développement durable des Nations Unies. Pour en parler avec nous, Stéphanie Beneil, chargée de mission sensibilisation et campagne d'intérêt général à l'AFD, l'Agence française de développement, donc qui a mis au point ce concours de podcast. Tidiane Tiang, producteur, réalisateur de documentaires et fiction sonore. Vous faites partie du collectif Making Waves et vous avez participé à Réinventer le monde avec les adolescents. Combien de podcasts reçus en tout ?
45 cette année.
Quand même.
Ouais, c'est super parce que c'est vrai que c'est une année aussi mouvementée. compliqué pour les enseignants. Mais voilà, les classes, les groupes ont réussi à aller jusqu'au bout. Et donc, on a reçu 45 podcasts et 45 podcasts de grande qualité. Donc, vraiment, un grand bravo à eux.
Alors, on va écouter justement un extrait d'un podcast avec des élèves à Bamako.
De nos jours, l'humanité est comme une grande usine où l'on travaille à la chaîne. Chaque pièce, petite ou grande, a un rôle défini à jouer qui peut conditionner la bonne marche de toute l'usine. Actuellement, en règle générale, les blocs d'intérêt s'affrontent et se déchirent. Il vous appartiendra peut-être, ô jeunes gens, de faire émerger peu à peu un nouvel état d'esprit, davantage orienté vers la complémentarité et la solidarité, tant individuelle qu'internationale. Ce serait la condition de la paix sans laquelle il ne saurait y avoir de développement.
Je m'appelle Khadijatou.
Je suis Esther.
Moi, Fatoumata.
Et moi, Gianni Sita.
Nous sommes des premières nées de ce 21e siècle. Nous habitons à Bamako, au centre pour jeunes filles du Gabon. Dans notre monde, le téléphone portable facilite les échanges entre les personnes. Grâce à l'Internet, on peut trouver toutes sortes d'informations. Il y a aussi les réseaux sociaux où les gens partagent des photos et vidéos et ils font des commentaires. Mais ces nouvelles technologies posent parfois des problèmes. Certaines informations sont fausses. D'autres peuvent pousser à faire des mauvaises actions. Des manipulations sont source de conflits meurtriers là où tu as entrepris tes voyages. Afrique, Orient, Europe, Amérique, au Mali, dans certaines régions, des familles sont obligées d'abandonner leur village. Les anciens fuient et les écoles ferment.
Les mots de l'écrivain Amadou Ampateba et la lettre de jeune fille élève à Bamako comme un écho aux visions de l'homme à fable. Tidiane Tiang, racontez-nous un peu comment est arrivé ce podcast de Bamako.
C'est arrivé comme les autres. Je pense qu'ils ont vu les informations passer sur Internet parce qu'ils nous parlent de réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont dû le voir sur les réseaux sociaux et ils ont envoyé leur production qui est vachement bien.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé, vous ?
J'aime bien cette manière aussi de pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour parler à la jeunesse. Parce que ça, la lettre d'Amat ou en Pateba, ça se faisait peut-être dans un village, au milieu du village, où tous les habitants venaient sous forme de discussions, d'échanges entre générations. Et je pense que le fait de pouvoir aussi utiliser les nouvelles technologies et de les faire passer, non pas, pas uniquement avec l'Afrique, mais avec le reste du monde, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et j'aime bien aussi son message d'ouverture. Et ça, je pense que les enjeux de développement durable nous poussent vraiment vers cette ouverture parce que s'il y a des conflits qui naissent aussi avec ça, parce que les cultivateurs peut-être seront moins tolérants vu qu'il y aura moins de pâturage, moins de terre par rapport aux éleveurs. Et du coup, parler d'ouverture, de l'acceptation de l'autre à travers sa lettre me paraît être un bon message pour le vivre ensemble, oui, sur le continent.
Et terriblement actuel, malheureusement. Oui. Aujourd'hui, malgré les énormes différences de destin d'adolescents sur la planète, quelle prise de conscience de cette génération qui regarde finalement les mêmes images sur Internet, mais ne vit pas du tout les mêmes existences ?
Ça pose énormément de questions sur comment le continent reçoit tout ça, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le continent représente 1% des contenus qui sont sur Internet, c'est-à-dire qu'on subit, on reçoit beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on reçoit et comment aussi arriver à proposer des choses. Je pense que ce qui sera intéressant, c'est de voir dans les années à venir aussi, à travers ces concours, comment ces jeunes aussi pourront produire en masse et arriver à aussi nous faire connaître et voir leur vision du monde et du développement durable.
Ça réinterroge aussi la notion de solidarité internationale, Stéphanie Bonneil.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est un programme qui est aujourd'hui développé en France, mais l'objectif, c'est aussi de faire participer des jeunes du monde entier. Ça, ce serait quelque chose de vraiment intéressant, et que ces jeunes échangent et partagent sur leur vision du monde à travers des réalités qui peuvent être différentes, mais de réfléchir aussi à ce qu'il y a de commun entre ces différents jeunes du monde entier. Et donc, cette idée aussi de solidarité. Comment ce qu'on a en commun, ben, on le partage. Et on le partage équitablement.
Comment vous travaillez avec l'éducation nationale à l'AFD, justement, sur ce concours de podcast? Est-ce que vous apportez des éléments d'expertise sur les politiques d'aide au développement, sur la gestion de l'eau, les déchets, les forêts, l'énergie solaire, tout ça?
Ouais. Alors en fait, ce programme finalement, parce qu'il y a le concours, et il y a aussi ce qu'on appelle le programme, donc des contenus pédagogiques. Donc l'AFD a produit des podcasts, et associé à ces podcasts qui racontent le quotidien d'habitants, il y a des contenus pédagogiques qui sont à destination des enseignants, de manière à ce que les enseignants fassent au départ un travail avec leurs élèves autour des décryptages des différents enjeux de développement, de solidarité internationale. Donc c'est le point de départ qui doit amener au fur et à mesure, en plusieurs étapes, à l'aboutissement qui est la production du podcast.
C'est ça. Donc en fait, ce sont des contenus de l'AFD que vous simplifiez pour les jeunes.
Voilà, il y a un gros travail de pédagogie pour que ces enjeux, qui sont très diversifiés, qui sont souvent complexes, c'est ça aussi qu'on cherche à montrer avec les ODD, c'est que les enjeux sont souvent interconnectés, que quand on parle de dérèglement climatique, souvent derrière, il y a aussi la question de la perte de la biodiversité, qu'il y a la question aussi de l'appauvrissement des populations, hein, qui, à cause du dérèglement climatique, peuvent être privées de leurs moyens de subsistance. Donc montrer finalement la complexité des situations, l'interconnexion des enjeux. Et ça, c'est ce qu'on veut vraiment apporter, nous, AFD, à ces jeunes, à travers les projets qu'on développe à destination des scolaires et en lien avec l'éducation nationale, qui porte aussi cette vision-là et cette optique-là à travers l'éducation au développement durable.
Alors justement, on est en ligne avec Catherine Deram. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice à l'atelier Canopée à Lille. Vous avez accompagné les élèves du lycée professionnel Dina de Ric de Villeneuve-d'Ascq dans le département du Nord. Ce sont des élèves qui ont imaginé l'histoire d'un tuk-tuk solaire à Madagascar, sur l'île de Sainte-Marie. Un tuk-tuk, c'est un tricycle motorisé inventé en Inde. Hein. Je le précise pour ceux qui n'auraient pas de tuk-tuk chez eux. Comment ils ont eu cette idée de tuk-tuk solaire?
Alors, on a eu la chance au lycée de Dina de Ric, il y avait déjà énormément de projets avec l'île de Sainte-Marie à Madagascar, et notamment la section électrotechnique conçoit, donc apprend à concevoir des moteurs solaires, à les transformer, et vont envoyer un tutoriel donc à l'île de Sainte-Marie. Donc, on s'est dit que le podcast pouvait peut-être mettre en lumière tous ces projets qu'il y avait déjà dans ce lycée. Et c'est ce qu'on a fait avec les élèves. On a imaginé donc la vie de ce tuk-tuk solaire dans l'île de Madagascar. Et il allait rencontrer plein de personnes qu'il allait transporter d'un bout à l'autre de cette île. Et en même temps, essayer de résoudre des problématiques de développement durable et des problématiques de transport dans cette île.
Oui, des transports plus propres, moins polluants.
Oui, tout à fait. Donc, c'était vraiment l'axe qu'on a décidé de prendre pour avoir justement répondre à l'ODD numéro 7, l'énergie propre et d'un coût plus abordable pour tout le monde.
Ouais. Qu'est-ce que ça a mis en évidence pour vous qui avez travaillé avec les jeunes?
Bah, c'est leur compréhension du monde, leur motivation. On a eu la chance de travailler avec Prosperine Zizou, qui est la présidente de l'association Dinamadas, une association qui a été faite au lycée Dina de Ric pour aider la maison des femmes de l'île de Sainte-Marie. Et en fait, Prosperine nous a réellement parlé de son île, des réelles problématiques. Et donc, les jeunes se sont rendus compte de tout ce qu'il pouvait y avoir ailleurs que dans leur vie. Et grâce à cette interview, on a pu imaginer ces différents personnages. Et donc, on s'est inspiré aussi du vécu réel des filles de là-bas, des difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. On a été jusqu'à prendre des prénoms malgaches pour ce podcast. On a eu la chance aussi d'avoir un musicien de là-bas qui nous a fait un petit peu le fond musical.
Ouais.
Et c'est vrai que les jeunes se sont vraiment impliqués et ont vraiment compris peut-être les difficultés quotidiennes que peuvent avoir les personnes de l'île, et surtout les femmes.
Ouais. Et est-ce qu'ils ont envie d'aller plus loin ensuite dans leurs réflexions ?
Alors moi, j'espère qu'ils vont pouvoir aller les rencontrer, hein, parce qu'il y a déjà eu des voyages qui se sont faits auparavant, hein, du lycée d'Enerderic à l'île de Sainte-Marie. Et j'espère qu'ils vont pouvoir, avec il y a aussi le lycée, hein, Sainte-Marie, c'est pas très grand, hein, c'est une île de 6 km de large sur 60 de long, mais j'espère qu'ils vont pouvoir tisser des liens avec les filles de l'association et pourquoi pas les lycéens de l'île, hein. c'est l'objectif aussi. Hein.
Ce qu'on n'a pas encore dit, Catherine Dora, mais il faut bien le préciser, c'est que ces podcasts, ils ont été réalisés en pleine pandémie, je ne me trompe pas, Stéphanie Benel.
Ah, oui.
Hein oui, ouais. C'est ça. C'est pour ça que voilà, je
donc c'est pas évident, hein, d'avoir des rencontres, de se renseigner, d'avoir des interviews et tout. Tout ça, ça se faisait comment, Catherine Doram, par Zoom?
Non, en fait, Prospérine est à Lille. Donc c'est ça notre chance, c'est qu'elle est à Lille. Donc elle a pu venir
dans l'établissement.
Elle a pu venir
malgré les contraintes sanitaires.
Voilà. Alors on avait le masque, bien sûr. On avait les gestes barrières, mais bon, elle nous a montré des photos. Des vidéos, ça a pu être vraiment une interview libre où les jeunes ont pu vraiment lui poser des questions, savoir la vie là-bas. Et à partir de là, l'imaginaire a pris le dessus.
Alors on sait que Madagascar est une île qui est particulièrement touchée par la pandémie. Est-ce que pour les jeunes qui ont eu du mal aussi avec les confinements, on l'a beaucoup dit, hein, les implications, les conséquences des confinements sur le psychisme des élèves, est-ce que ça leur a donné une petite bouffée d'oxygène de regarder ailleurs, loin, même si tout ça reste à distance?
Ah oui, je pense parce que on a voyagé
en pleine pandémie, en plein confinement,
réellement, hein, c'est vrai que faire ce projet, c'était un vrai voyage pour moi aussi, une découverte avec eux, dès qu'on une découverte de l'île de Sainte-Marie. J'ai vraiment envie d'y aller aussi, d'ailleurs.
Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer, alors, Catherine Doram, au nom de tous vos élèves?
Écoutez, ce ne sont pas mes élèves, mais c'est vrai que je pense que toutes les populations à travers le monde ont des problématiques. Hein, et en étant ensemble, on est plus fort pour imaginer des solutions. Et c'est ce qu'on a essayé d'imaginer dans ce podcast. Ouais. Et tout, le tuk-tuk sol ider, sol pour soleil, idée pour idée et air solidaire. Voilà, on veut s'aider mutuellement parce que nous aussi on a des problèmes, on pourrait apprendre tout à fait des Samariens.
Oui, et puis de la façon dont ils arrivent à résoudre des problèmes, eux aussi dans cette île, cette petite île au large de Madagascar. Merci beaucoup Catherine Doram d'avoir été en ligne avec nous. Ça me fait penser, ensemble on va plus loin, c'est ça qu'elle voulait dire, Tidiane Tiang, le célèbre proverbe?
Oui, c'est ça que ça voulait dire, c'est l'intelligence collective, c'est qu'il faut pour... ensemble, on va plus loin, mais plus lentement. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir de ces productions.
Alors, il y a eu un podcast aussi qui s'appelle « Juste un SDF ». Vous en avez parlé au début de l'émission, Tidiane Tiang, qui a été réalisé par des élèves du collège Blaise Pascal à Plaisir dans les Yvelines. C'est l'histoire d'un journaliste en France qui se fait renvoyer parce qu'il veut parler des inégalités. Et le podcast s'intitule « Juste un SDF ».
Est-ce que l'accès à la santé est le même pour tous? Oh que non, je m'en suis vite aperçu. Des gens peuvent se faire soigner rapidement, d'autres ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas payer les soins. J'ai interrogé les patients, les familles, les infirmiers, les docteurs. Mon article était prêt. Comme d'habitude, je l'ai montré à mon patron. Il l'a lu, il a levé la tête et contre toute attente est sorti de sa bouche un grand...
Ah ça, non!
Furieux. Mais il faut le faire! Et je dis à mon patron.
Non, maintenant prends tes affaires. Va-t'en! Tu ne travailles plus pour moi. Tu es trop dangereux. À cause de toi, on va avoir des gros problèmes. Tu comprends? Je ne veux pas me faire des ennemis.
M'a-t-il répondu. Honteux et très en colère, j'ai traîné de bord en bord.
J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai bu et j'avais terriblement honte de rentrer chez moi. Je suis rentrée dans la nuit, ma femme a crié, j'ai crié aussi, elle a pleuré, je l'ai poussée, elle est tombée, elle s'est relevée, elle m'a dit
« Pars maintenant, c'est fini, je ne veux plus vivre avec un mari violent comme toi, c'est fini
!» Et du jour au lendemain, plus de travail, plus d'argent, plus de logement, plus de famille, j'ai erré. Je me suis retrouvée au bord du périphérique avec beaucoup d'autres SDF. J'ai trouvé un tente vide. Un SDF mort de froid peut-être. J'ai trouvé un petit chien errant lui aussi. Nous sommes vite devenus indispensables l'un à l'autre. Et mes bouteilles de vin aussi sont devenues indispensables. Voilà comment moi, Hugo, suis devenu un SDF. Fin de l'histoire.
Fin de l'histoire. Stéphanie Beneil, un petit mot de décodage peut-être.
Oui. Alors, ce podcast, il a été produit par des élèves qui font partie d'une unité qui s'appelle UP2A, donc c'est un terme un peu, enfin c'est encore un acronyme, mais ils sont dans une classe dite d'élèves allophones et primo arrivants.
Donc c'est des élèves immigrés qui maîtrisent pas encore bien le français.
Voilà, exactement. Donc il y a une grande diversité. Il y a des élèves qui viennent d'Angleterre, de certains pays d'Amérique du Sud, d'Irak, de pays aussi d'Afrique. Cette grande diversité culturelle est présente dans ces groupes. Et ensemble, ils ont décidé de raconter une histoire qui leur soit commune. Enfin, voilà, ils ont réfléchi à un sujet commun et c'est celui qu'ils ont choisi, celui de la liberté d'expression et de ce parcours chaotique de Hugo. C'est une très belle production qui a reçu... c'est une très, très belle production.
Tidiane Tiong.
Une belle production qui résume beaucoup de d'objectifs de développement durable. En soi, je pense que déjà le fait d'avoir droit à la parole, de pouvoir parler, la situation des personnes dans la rue, toutes ces thématiques ont été abordées, mais de manière très simple. Et c'est ça aussi qui frappe, c'est ils ont parlé avec leurs paroles, avec leurs mots.
Ouais. Et leur vision, ouais. Parce que vous le disiez au début de l'émission, parfois ils ont des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé. L'histoire se passe en France, c'est un journaliste qui se retrouve à la rue sans domicile fixe, donc c'est quand même pas vraiment courant, il faut quand même le dire aux auditeurs. Et il faut rappeler que dans ce pays, la France, on a 6 enfants sur 10 qui ont peur de devenir pauvres de façon relativement irrationnelle, parce que hélas, il y a quelque chose de très reproductif dans la pauvreté. Voilà pourquoi ils ont imaginé cette histoire qui en dit long sur leurs inquiétudes, en fait.
Ouais. Et surtout la notion de pauvreté, moi, je le relativise toujours par rapport en Afrique que je connais bien, où la pauvreté, c'est pas seulement d'avoir une... la richesse, c'est pas d'avoir une grosse voiture, d'avoir une grande maison ou d'aller chaque année en vacances. C'est seulement les personnes qui vous entourent. Et je pense que ça, l'avoir dans un podcast, c'est de pouvoir aussi donner une vision de ce qu'est la pauvreté d'un continent à un autre, ça pourrait être intéressant et ça peut nourrir aussi.
Tidiane Tiong, avant qu'on se quitte, je voudrais faire découvrir la série de contes que vous avez réalisés, produits en Côte d'Ivoire et qui est hébergée sur le site de RFI, l'Afrique en compte.
RFI Podcast.
La bouche qui prend la parole, parole doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent.
Mi conviso ya soa clamo, mi conviso si ka fue, songe milie milie, minye ja koyo koyo.
Tortue puissance,
amen yide.
Puissance,
Tortue
puissance,
amen yide. Félicitations, cher tortue. J'ai vraiment aimé la manière dont tu courais. Et tu ne t'es pas laissé faire. Et là, tu mettais un pas assuré après l'autre. Vraiment bravo. Mes félicitations. Et tu as eu une très belle part.
Aboué.
Oué.
Aboué.
Oué.
L'Afrique en compte.
Récits d'ici et d'ailleurs.
Mais comme toujours, la réussite fait des jaloux.
Ah bon? Et qui sont les jaloux conteurs?
Eh bien, pour connaître les jaloux, il faut savoir pourquoi Koyo Koyo était en vie.
L'Afrique en compte pour animer les soirées en famille, où que vous soyez d'ailleurs dans le monde, Tidiane Tiong, l'Afrique en compte. Est-ce que, Est-ce qu'on peut réinventer le conte maintenant qu'on a réinventé le monde avec les lycéens et les collégiens?
C'est l'objectif de ce projet, l'Afrique en conte, c'était d'arriver aussi à ce que, vu que nos habitudes d'écoute ont vachement évolué, ouais, d'arriver aussi à s'adapter à cette jeunesse qui sont toujours en avec des téléphones portables, qui écoutent tout à travers les téléphones portables, mais également de manière artistique et esthétique, arriver à intégrer tout ce qui est musique moderne dans ces contes-là. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé, c'est de le mettre à jour, de le rendre accessible et le réinventer.
Réinventer le monde, il y aura une troisième édition, Stéphanie Beneil.
Bien sûr. Oui, oui, dès la rentrée, tous ceux et celles qui souhaitent participer au projet sont les bienvenus. Voilà, le site est accessible et l'équipe sensibilisation de l'AFD est à la disposition des enseignants, des éducateurs qui voudraient être accompagnés dans ce beau projet.
Et bien sûr, on a mis le lien sur notre page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Tidiane Tiang, vous allez continuer à travailler avec les élèves là?
Oui, et nous allons aller vers beaucoup de fiction, vraiment faire beaucoup de fiction. Et
ça marche bien, voilà. Ils aiment ça, non?
Ils adorent.
Oui. Merci à tous les deux. Stéphanie Beneil, chargée de mission sensibilisation et campagne d'intérêt général à l'AFD. Tidiane Tiang, merci d'être venue chez 7 milliards de voisins, producteur, réalisateur de documentaires, fiction sonore. Vous faites partie du collectif Making Waves, qui produit d'ailleurs l'Afrique en compte. Et vous avez participé à réinventer le monde. Et puis je rappelle aussi que vous êtes aussi le réalisateur du feuilleton radiophonique Dianke, qui a été récompensé, qu'on écoute toujours sur le site de RFI. Lundi, 7 milliards de voisins. Je laisse les clés de la maison à Charlie Dupiot. Vous aurez la parole sur le congé de paternité. Est-ce que ça permet de devenir vraiment papa? On vous donnera la parole au 33 7 64 45 51 41. On se quitte avec Célassou. And I'm broken, chemicals in the bottle control what I'm thinking, he said to take him slow. All the pretty colors don't mix with each other, and if you do, you'll lose control. But it won't stop. Tell my girl, how does it feel when a hard life turns into growth? How does it feel? Voisins sur RFI, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Gwendal Lavina, Romain Dubrac, David Brockway. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions quand vous le souhaitez, quand ça vous arrange, en podcast, 7 milliards de voisins, sur le site RFI.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement. À lundi avec Charlie Dupiot. Session Lab, un